Information sur rts.ch.
Vacarme.
C'est la première fois qu'un système international de protection des droits de l'homme permet aux requérants individuels d'avoir accès à un cours international et de porter une requête contre son propre pays. C'était une première en droit international et ça continue à être unique.
Vacarme.
Peut-on se passer de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Véronique Marty, Marc Jouze.
Bonjour à tous et à chacune. La Cour européenne des droits de l'homme, vous savez ce que c'est ? Un tribunal, oui. Européen, certes. Mais pourquoi la Suisse est-elle concernée par certains de ses jugements ? Alors qu'elle ne fait pas partie de la communauté européenne. C'est une des questions qu'on va devoir éclaircir puisque le peuple suisse votera probablement un jour prochain sur cette Cour européenne des droits de l'homme. En effet, l'UDC vient de terminer le recueil de signatures pour une initiative qu'elle a intitulée « Le droit suisse au lieu de juges étrangers ». Une initiative qui vise prioritairement la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle donc nous consacrons les 5 reportages de Vacarme cette semaine. Première précision importante, la Cour européenne des droits de l'homme n'a aucun lien de parenté avec l'Union européenne ou la communauté européenne. Non, elle est l'émanation du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe qui regroupe 47 pays, de la Finlande à la Turquie, en passant par la Russie, l'Ukraine et la Suisse. La Suisse qui en est membre depuis 1963. Ce Conseil de l'Europe est né du puissant désir de paix et de démocratie et de respect des droits humains qui habitaient les peuples d'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le Conseil a élaboré ensuite la Convention européenne des droits humains, puis il a créé la Cour européenne des droits de l'homme, une sorte de tribunal chargé de faire respecter cette convention par les pays qui l'ont signée. Alors cette Cour, établie à Strasbourg, elle reçoit chaque jour plus d'un millier de requêtes qu'on a postées dans les 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Voici « L'Europe, c'est nous », un reportage de Christophe Canu, réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Bonjour. Hello.
Nice to meet you.
Nice to meet you. I'm Natalie Waldemann.
You're from Georgia.
Okay. Yes, I will show you the meeting.
Natalie, c'est qui?
Hearing room.
C'est une personne qui s'occupe du service des visites et qui fait l'accueil des groupes. Et là, elle vient d'accueillir un groupe de Turcs qui est arrivé ce matin. Elle va les conduire à la salle d'audience.
Parce qu'ils sont Georgiens, non? Elle me disait. Non?
C'est des Georgiens que tu reçois?
Albanais.
Ah, c'est Albanais. Ok, bon.
It's okay. Okay. So good morning, everyone.
Good morning.
If you want, we can go into the meeting room. You drag
them. Nous recevons beaucoup de personnes tout au cours de l'année, des groupes, des individuels, des étudiants, des magistrats. Et ils sont accueillis également par un de mes collègues juristes qui les reçoit et qui est en train en ce moment de les saluer.
Ça parle toutes les langues ici?
Ça parle toutes les langues. Il n'y a pas 47 langues, mais il y a 47 pays. Et les deux langues officielles sont le français et l'anglais. On va descendre au service du courrier parce qu'à 10h, il y a l'arrivée d'une navette qui vient du Conseil de l'Europe, qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Et nous avons environ un millier de lettres qui arrivent tous les jours, qui sont dépouillées par un service. Donc c'est un travail énorme. Voilà la salle du courrier. Voilà, je vous présente Nigar, qui s'occupe du courrier avec tous les collègues qui sont là.
Il y a une belle équipe, voilà. Mais tout le monde n'est pas là.
Le courrier n'est pas encore arrivé?
Non, mais le courrier, il n'est pas ramené ici. Maintenant, on a un local où on fait le tri de courrier et l'ouverture. Yora, toujours prévu, non? Ok, donc moi, je vous ramène. Donc voilà, on a l'arrivage de courrier deux fois par jour, donc le matin et l'après-midi. Donc c'est les requérants qui écrivent, ou je ne sais pas, c'est les lettres pour les juges, pour le staff. Donc voilà. Et ça se passe ici, voilà. Nigar, on a, voilà, donc Nigar, c'est le chef de service de courrier, voilà. Et donc c'est elle qui nous aide, qui nous forme, qui nous montre comment il faut travailler avec le courrier. Donc voilà, ça c'est l'arrivage de ce matin. Vous voyez, donc dans les bacs, vous avez des paquets, des lettres, de tous les formats qui viennent de, voilà, de 47 pays, donc les pays qui font partie du Conseil de l'Europe.
Vous avez combien de lettres qui arrivent chaque jour ?
Bah, ça dépend. Ça peut aller par vague. Hein, Nigar, tu le sais mieux. Quoi,
oui, ça peut aller jusqu'à 1500 lettres, fax et courrier électronique par jour. Le format d'enveloppe change beaucoup. Pour les prisons, c'est souvent les petites enveloppes. Ils n'ont pas beaucoup de moyens d'envoyer les choses plus volumineuses. Les cabinets, souvent, envoient des choses plus consistantes.
Les cabinets d'avocats, par exemple ?
Cabinets d'avocats, oui. Ça change en fonction de ça. On a quelqu'un qui comprend le grec, on ressemble les choses qui viennent de Chypre, Grèce, ensemble. Là, c'est toutes les lettres de la Pologne. Ici, j'ai les pays slaves, dont une partie en cyrillique, les lettres qui sont rédigées en cyrillique. Ici, il y a l'Europe de l'Ouest. On a aussi un autre tas où on ressemble les choses qui parviennent de Hongrie, Slovaquie, Turquie. Bon, ça, c'est... Ils pensent que Strasbourg n'est pas en France parce qu'il est marqué un autre pays. Mais ça arrive quand même.
Il a marqué quoi, tout ?
Anstalt, c'est que...
Anstalt, je sais pas. Bon, on a déjà eu la cour de Strasbourg à Paris. Et ça vient aussi, quoi.
On a pas mal de choses qui sont vraiment étonnantes et on se demande comment la poste comprend que c'est pour nous. Et souvent, ils se trompent pas. Il y a des récurrents un peu bizarres, dont un qui écrit une lettre avec des petites lettres. Il ne met pas sa lettre dans l'enveloppe, il colle sur la lettre directement en timbre. Et notre adresse est marquée dans un petit coin. Il l'écrit souvent et ça arrive à chaque fois. Il est slovène. Mais d'autre côté, il y a les lettres qui arrivent des pays où on utilise l'alphabet cyrillique. Donc, ce n'est pas forcément pour la cour, mais la poste, ne pouvant pas lire le contenu de l'adresse, transmet tout chez nous.
Parce que les requêtes, elles passent forcément par le courrier ou ça peut être des courriers électroniques ?
Non, ça ne peut pas être un courrier électronique. On a besoin d'une signature originale. Donc, tout ce qui est envoyé électroniquement à la cour est répondu, comme quoi adresser un courrier postal avec un formulaire de requête bien rempli, bien signé.
C'est pour l'ouverture, bien sûr, de requêtes. Par la suite, on accepte des mails, des fax, mais qui sont liés à une requête existante. Mais pour ouvrir une requête, il nous faut vraiment une preuve que la personne l'a faite, elle l'a signée. Donc voilà, ils le savent et puis ils le font. Toutes les personnes ont le droit d'écrire à la cour et s'adresser à la cour. Mais malheureusement, dans les 47 pays, tout le monde n'a pas accès à l'Internet. C'est pour ça qu'on a dit les chances sont égaux. Donc c'est pour ça qu'on a, pour le moment, on dit c'est par courrier, parce que tout le monde peut envoyer un courrier, mais pas le fax ou pas un email. Voilà, donc c'est aussi dans ce cadre-là. Chacun a le même droit.
Moi, je trouve ça très émouvant de voir ces lettres posées là, parce que on n'a plus l'habitude d'envoyer du courrier comme ça, de voir des écritures manuscrites.
Oui, et ce qui est intéressant, on voit que dans les pays, il y a les cultures d'écrire une lettre
différente.
Hein. On reconnaît tout de suite l'origine de la lettre en regardant comment elle est présentée.
Il y a l'autre côté de la médaille, c'est qu'on peut recevoir tout et n'importe quoi. Il y a certaines lettres où on n'ose même pas toucher. Parce que les gens, ils se vengent contre une décision d'irrécevabilité, par exemple, ils vous envoient des excréments ou le truc comme ça. Mais ça arrive jusque-là, quoi. Ou les détenus qui nous disent, voilà, c'est mon mouchoir et j'ai craché du sang, je vous l'envoie, quoi. Donc il faut qu'on soit très prudent aussi ici. Et puis, c'est préconisé, on a des produits désinfectants pour qu'on puisse vraiment travailler en toute sécurité.
En fait, on est vraiment aux avant-postes.
Ouais, ouais. Tout commence ici.
La vraie Europe unie, c'est nous, quoi.
Il y a 47 pays membres du Conseil de l'Europe.
Ouais.
Ça correspond à combien de langues ?
Bah, ça correspond à 41 langues de travail. Le romain, le russe, le serbe, l'hongrois, l'islandais, catalan aussi. On utilise comme langue de travail, voilà, maltais.
Dans notre service, on a besoin des gens qui sont polyglottes parce que les lettres qu'on reçoit sont dans des langues différentes. et des fois même des lettres dans des langues qui ne sont pas des langues officielles des pays membres, mandarin, arabe, persan, hébreu. Si on arrive à déchiffrer l'adresse de retour, on transmet une lettre dans une des langues officielles expliquant que cette langue-là, dans laquelle ils se sont adressés à la cour, n'est pas comprise par la cour et il faut écrire dans une des langues des pays membres. Voilà, c'est ça qu'on leur répond.
Afin d'introduire valablement votre requête, des formalités doivent être respectées au risque de voir votre affaire rejetée. Vous devez impérativement signer le pouvoir. Indiquez le ou les États que vous entendez poursuivre. Il ne peut s'agir que d'États ayant ratifié la Convention, donc se trouvant dans cette liste. Envoyez-le à la Cour uniquement par voie postale.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien. Ali est un juriste turc qu'on a vu qui a reçu le groupe tout à l'heure, et un groupe d'Albanais.
Et vous, vous êtes spécialisé dans les visites?
Non, je ne fais pas que des visites. Il n'y a pas de juriste spécialisé dans les visites. On est avant tout juriste, c'est-à-dire qu'on s'occupe de traiter les requêtes qui arrivent ici. Et à côté de ça, on s'occupe également de recevoir les groupes de visiteurs.
Il y en a beaucoup?
Il y en a pas mal. Pour ma part, j'ai souvent des groupes de visiteurs qui sont composés de magistrats turcs, parce que je traite les affaires turques. Et pour nous, c'est très important de pouvoir les recevoir ici, parfois pour quelques heures, parfois pour toute une journée, afin d'échanger sur la convention et sur la manière de l'appliquer en droit interne. Et j'ai pu constater, je suis là depuis quelques années, que ça produit des effets. Il y a un certain nombre de changements dans la jurisprudence de certaines juridictions turques qui concernent des points qui ont été abordés ici au cours des visites.
Ah oui, vous avez un exemple ?
Par exemple, les affaires qu'on nomme les affaires relevant du domaine forestier de l'État. Donc, c'est des affaires dans lesquelles les tribunaux annulaient des titres de propriété valables au motif que ces titres de propriété portaient sur des terrains qui relevaient du domaine forestier de l'État et donc que les titres n'étaient pas valables. Et les juridictions turques annulaient ces titres sans verser d'indemnité aux propriétaires du terrain. Et ça, c'est une question qu'on a abordée dans pas mal de réunions organisées dans le cadre de visites avec des magistrats turcs et notamment avec des magistrats de la 20e chambre civile de la Cour de cassation. Et finalement, la 20e chambre civile a modifié sa jurisprudence puisque désormais, elle verse une indemnité aux personnes qui sont concernées par des annulations de titres de propriété de ce type-là.
Ah oui, donc ça veut dire que tout ne passe pas par les grandes instances. Dans certains cas, ça passe aussi par les couloirs, entre guillemets.
Notre objectif, c'est que la convention soit appliquée par les juridictions nationales. Et à partir du moment où on peut aider les juridictions nationales à mieux connaître la convention, pour mieux l'appliquer, eh bien on le fait très volontiers, ça fait partie de notre travail.
Ce matin, par exemple, la visite ?
Alors, ce matin, ce n'était pas des magistrats, c'était des élèves d'une école d'études politiques. Donc, c'est des élèves qui sont en fait qui travaillent déjà pour la plupart, soit comme assistants parlementaires, soit comme cadres dans certains partis politiques. Et je crois que c'est important aussi de leur transmettre, entre guillemets, la bonne parole, puisqu'ils sont à des postes où ils peuvent avoir une certaine influence sur les lois qui vont être adoptées.
Quand on coupe l'emballage, on cherche à retenir toutes les parties qui prouvent l'envoi. Parce que c'est primordial en cas de premier contact avec la cour. Ça prouve que ça a été envoyé dans les délais. Il y a un critère de recevabilité qui est le critère de 6 mois. Ça veut dire qu'il faut s'adresser à la cour durant les 6 mois qui suivent la date de dernière décision de l'instance la plus haute interne au pays national.
L'instance juridique.
Oui. Donc, ils ont cette période de 6 mois et c'est exactement l'envoi qui est authentifié par le timbre et cachet de la poste. On cherche à préserver toutes ces informations. Du coup, ce requérant-là, il a bien fait. Il a utilisé le formulaire standard de requête.
Et puis on voit sur l'adresse Monsieur le greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe.
À mon avis, c'est un cabinet qui s'adresse à la Cour. Oui, parce qu'ici, on voit le représentant, les données de représentants.
Ça vient d'Espagne.
Les gens s'adressent chez nous, ils ne s'adressent pas contre leurs voisins ni quoi. Ils s'adressent contre leur pays ou contre un pays dans lequel ces droits ont été violés. Donc du coup, si la Cour elle trouve que la requête peut être recevable, elle donne au gouvernement maintenant la possibilité de s'expliquer sur cette affaire-là. Et c'est à ce moment-là on communique l'affaire. Et à partir de là, la correspondance et le contact, c'est en deux langues officielles, en français et en anglais. Voilà. Y compris le requérant. C'est pour ça, les gens qui ne parlent pas la langue officielle, on leur conseille d'avoir des avocats, des représentants qui parlent la langue officielle. Voilà. Voilà, par exemple, ça, c'est écrit en anglais. Donc, on regarde, on voit que il attend quelque chose d'urgent. Donc là, on va transmettre.
C'est plutôt une procédure urgente, c'est ça?
Ça veut dire, nous, on fait attention maintenant. C'est vrai, on a par exemple, si on voit que la certaines nationalités de Proche-Orient et tout ça qui habitent dans les pays de l'Europe s'adressent à nous pour ne pas, et si on ne peut pas comprendre vraiment la contenu, pour ne pas prendre les risques, on prévient les divisions qu'il y aura peut-être l'urgence à traiter l'affaire.
Faites un résumé concis des faits, si possible, de 3 pages maximum. Citez les articles de la Convention qui, selon vous, ont été violés. Pour chaque article invoqué, expliquez séparément et brièvement en quoi cette disposition a été violée.
Voilà, nous sommes arrivés au niveau des 2 salles d'audience, la petite salle d'audience et la grande salle d'audience. Pour les chambres et pour les grandes chambres, c'est dans cette salle que nous recevons le public. Il y a environ 250 places. Et si vous vous approchez, vous allez voir un fer à cheval où vous avez les sièges au fond de tous les juges qui s'installent ici quand il y a des formations plénières, qui s'installent ici en grand cercle avec le président au milieu. Rez-de-chaussée.
Et là, il y a quelqu'un derrière une vitre dans un petit bureau juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'il fait là?
Ici, dans le truc, dans la pièce, là, ce sont les requérants. Des gens, monsieur qui tapent sur le truc, ils sont en général un peu. Ça peut être très violent. Hein.
C'est-à-dire des requérants?
Qui sont des gens, en fait, on dit que toutes les requêtes doivent être envoyées par la poste. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans la misère totale, qui prennent le bus de très loin, qui arrivent ici avec des sacs en plastique et qui sonnent en disant au secours. Donc tous les gens ici sont reçus. Ici, il y a 4 ou 5 pièces dans lesquelles on peut recevoir ces gens qui posent leurs valises et qui expliquent leurs problèmes. Et un juriste, en général, ou une personne, les reçoit et écoute ce qu'elles ont à dire. Alors, si c'est une requête, elle les aide à remplir le formulaire de requête. Sinon, elle les oriente vers les services qui seront les plus compétents pour les recevoir. Ça peut être des services de la ville de Strasbourg ou des services sanitaires, etc.
Il y en a beaucoup, des personnes comme ça?
Oui. Alors, il est expressément dit sur le site internet de la Cour qu'on ne reçoit de requêtes que par courrier, mais il y a quand même des gens qui viennent ici.
Et c'est le cas, donc, hein, actuellement?
Bon, ça peut être aussi des gens qui ont des problèmes psychiques et qui vont rester ici un certain temps, et qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Ça peut être des fois assez tragique. On va se déplacer un peu, je vais voir s'il y a du monde devant. Voilà, nous sommes donc au 4e étage et nous allons rencontrer Guilhem Cano Palomares.
Qui est ?
Qui est juriste.
Infotrafic RTS.
Contresens, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'axe Lucerne-Chiasso. Quelle que soit votre direction, si vous circulez entre Biasca et l'échangeur de Bellinzona Nord, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'axe Lucerne-Chiasso.
Quelle que soit votre direction, si vous circulez entre Biasca et l'échangeur de Bellinzona Nord, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. A2 Saint-Gothard-Chiasso, entre Biasca et l'échangeur de Bellinzona Nord, dans les deux sens, véhicule à contresens.
Normalement, dans la langue originale du pays, par exemple, un dossier contre la Suisse, normalement, ça sera rédigé dans une des langues officielles de la Suisse, soit l'italien, soit l'allemand, soit le français. Donc ça sera normalement les juristes du pays, les juristes qui ont la nationalité suisse ou qui connaissent une de ces langues et qui connaissent le système juridique national, qui vont examiner ce dossier, cette requête. Ça sera d'abord ces juristes-là qui vont faire ce qu'on appelle le filtrage. Le filtrage, ça veut dire faire un examen préliminaire d'une requête pour voir si elle est complète, pour que la Cour puisse examiner l'affaire. Et une fois que le juriste de la division de traitement d'affaires a examiné ce dossier, cette requête, elle va l'attribuer à un organe décisionnel, un organe juridictionnel. Il y a plusieurs organes juridictionnels au sein de la Cour. Il y a ce qu'on appelle les juges uniques, pour les affaires clairement irrécevables, le comité des trois juges, les chambres de 7 juges et même une grande chambre de 17 juges.
On parle beaucoup des juges, mais en fait, le juriste, c'est lui qui va orienter le cheminement d'une requête.
Oui, ça c'est vrai, c'est le premier filtrage, le premier cheminement d'une requête. Mais ça, ce n'est pas définitif parce qu'il y a toujours un contrôle par les juges. Donc le juge, quand il reçoit, par exemple, si le juriste a attribué cette affaire, une affaire à un juge unique, parce qu'il considère que la requête ne remplisse pas les conditions basiques de recevabilité, c'est le juge unique qui va examiner ce dossier, cette proposition d'irrecevabilité, et s'il n'est pas d'accord, il pourra renvoyer l'affaire à un autre organe juridictionnel, par exemple un comité de trois juges, ou même une chambre de 7 juges. Donc il y a toujours la décision finale qui est adoptée par un juge. Avant 2010, il fallait un comité des trois juges. Donc il y avait plus de juges impliqués dans une décision qui, finalement, traitait une affaire qui était clairement irrécevable. Donc, on a gagné de l'efficacité grâce à ça, grâce au système du juge unique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le requérant reçoit une lettre de la Cour, une réponse, dans des délais beaucoup plus courts. Donc, par exemple, dans quelques mois après l'introduction de la requête. Et ça, c'est beaucoup plus satisfaisant pour le requérant parce qu'on ne va pas attendre, ce n'est pas logique d'attendre des années, un an, deux ans, trois ans, pour que la Cour vous dise que la requête est clairement irrécevable. Par exemple, le pic en 2011, on parlait, il y avait plus de 160 000 affaires pendantes. Et là, j'ai les statistiques récentes du mois de septembre, je crois qu'on est à 60 000 quelques affaires pendantes.
Vous-même, vous occupez quel poste ici ?
Personnellement, je ne fais pas partie de ces premiers tris parce que moi, je suis à la division de la recherche et au service du jurisconsulte de la Cour. Et je travaille à temps partiel pour les affaires espagnoles, pour traiter des affaires espagnoles, mais pas dans les filtrages. Je travaille pour les affaires un peu plus complexes, un peu plus compliquées, donc c'est des affaires des chambres. Donc je travaille pour la rédaction des arrêts, des affaires qui méritent un examen au fond. J'ai d'autres collègues qui sont dans la division de traitement d'affaires espagnoles qui font ce type de travail de filtrage. Donc cet examen préliminaire de l'affaire.
Ouais. Juste pour qu'on comprenne aussi, il y a deux possibilités. Il y a la chambre et il y a la grande chambre aussi.
Mais il faut savoir aussi que la grande chambre, ce n'est pas une sorte de deuxième instance, ce n'est pas un recours d'appel. Donc une fois qu'on a eu un arrêt de la chambre, c'est vraiment dans des cas très minimes, dans des cas exceptionnels, que la grande chambre va être saisie. Parce qu'il y a les articles dans la Convention qui disent qu'il faut que l'affaire pose des questions importantes au regard de la Convention pour que l'affaire soit acceptée par la grande chambre. Il y a une espèce de filtrage aussi au sein de la grande chambre, un collège de 5 juges qui va choisir les affaires qui vont être traitées par la grande chambre. Donc ce n'est pas n'importe quel arrêt de la chambre, même si c'est négatif contre le requérant, ça ne veut pas dire que le requérant aura droit à un nouvel examen, à une deuxième instance devant la grande chambre. C'est vraiment dans des affaires exceptionnelles qui posent des questions nouvelles, où il y a eu, par exemple, des contradictions entre les différentes sections de la Cour, le requérant ou l'État aussi peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Mais il faut le justifier et il faut que ces collèges des 5 juges prennent cette décision et se saisissent de cette affaire pour que la Grande Chambre puisse le traiter.
Voilà.
Voilà, parce que ça se présente comme ça, vous voyez, Moldavie, Bulgarie, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Géorgie, France, Hongrie, Turquie.
Tout le processus, si on parle de la réception d'une lettre à son classement dans les archives, Ça peut prendre jusqu'à combien de temps?
On a des objectifs clairs pour la Cour, c'est de traiter par exemple les affaires bien fondées, on parle des affaires des chambres, de les communiquer à l'État défendeur, ça veut dire de le transmettre pour qu'il puisse nous présenter des observations sur le fond de l'affaire dans un délai d'un an depuis la réception de la requête. Et une fois que l'affaire est communiquée, pour traiter, pour que la chambre prononce son arrêt, on a un délai de 2 ans. Donc en total, ça serait 3 ans à partir de la réception de la requête. 3 ans pour qu'il y ait un arrêt sur le fond dans une affaire des chambres. Bien entendu, il y a encore des affaires qui sont beaucoup plus anciennes, qui sont traitées dans des délais plus longs.
Moi, ce qui me marque, c'est qu'on dit toujours que la justice est indépendante. Mais finalement, par des décisions politiques qui visent à diminuer, par exemple, le temps qu'on peut consacrer à une affaire, on intervient dans le processus juridique. C'est une manière de dire soyez plus rentable.
Bon, il faut savoir que la convention, c'est un traité international. Donc, c'est les États qui ont élaboré la convention en 1950, c'est les États qui ont signé la convention, c'est les États qui ont ratifié la convention. Donc, les États sont, d'une certaine façon, le maître du système de la convention. Ça, il faut le savoir. Mais ce qui est important ici, c'est que pour la première fois, et à partir de 1998, c'est la première fois qu'un système international de protection des droits de l'homme